Père céleste, tu as envoyé ton Fils dans le monde. Il est allé vers les pauvres, ceux qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Il a pris le même baptême que eux, le baptême de Jean-Baptiste. Soutiens ton Église afin que par son témoignage, les pauvres voient le ciel ouvert et connaissent Jésus-Christ. Que ta parole soit pour nous comme une pluie rafraîchissante sur un sol altéré. Amen. Le texte que nous écouterons, que Annie va nous lire, c'est dans Exode 3, les 12 premiers versets.
Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre madian. Il amena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Et il lui dit, parce que je suis avec toi.
Moïse a commencé sa vie adulte, on peut dire, par un assassinat, tellement il était passionné de justice, choqué qu'il était par l'injustice que subissaient les Hébreux. Il a tué un de ses tortionnaires égyptiens, qui martyrisait un de ses compatriotes. Il avait vraiment une passion pour la justice. Dieu aussi a une passion pour la justice, mais il agit autrement que nous. C'est ce qui est révélé à Moïse dans ce buisson. Moïse, quand il voit Dieu dans ce buisson, c'était à l'époque où il était loin de l'Égypte, à Madian, où il a travaillé 40 ans auprès de Jéthro comme berger, éleveur de moutons. Pour se faire oublier, parce qu'en Égypte, la nouvelle s'était répandue qu'il avait tué lui-même un Égyptien. Ce qui lui est révélé dans ce buisson, c'est que Dieu connaît la souffrance des Hébreux. Pourquoi un buisson d'épines et non pas un chêne vert, par exemple, ou un térébinthe comme il y en a dans le désert, térébinthe centenaire parfois. Non, un buisson d'épines. Ça symbolise la souffrance des Hébreux, et Dieu est au cœur de cette souffrance, mais le buisson brûle et sans se consumer. Le Seigneur ne permettra pas que son peuple disparaisse dans la souffrance. Et le Seigneur connaît cette souffrance, non pas comme quelqu'un extérieur à la souffrance de son peuple, mais il est lui-même dans le buisson, dans la souffrance de son peuple. Cette révélation a transformé Moïse et a transformé le cours de l'histoire. Mais Moïse est revenu donc en Égypte, mais pas pour lutter comme il avait lutté au début de sa vie, avec les moyens humains. Il est devenu, on peut dire, le plus grand justicier de l'histoire humaine, le plus grand défenseur de la justice dans la Bible. Mais il a aussi appris, dans cette rencontre avec Dieu, tout change quand Dieu vient. Il a rencontré dans ce buisson ardent la justice de Dieu, son désir de justice, sa passion pour la justice, mais en même temps il a rencontré la sainteté de Dieu. Il a dû enlever ses sandales, il a rencontré la sainteté de Dieu, il a rencontré l'amour de Dieu. Quand Dieu dit Dieu d'Abraham, cela signifie aussi qu'il est le Dieu de cet homme qui a tellement aimé les autres. Il était accueillant, il était hospitalier, Abraham. Il a intercédé même pour Sodome et Gomorre, une ville de mécréants. Et il a intercédé pour cette ville. Abraham est le type de l'hospitalité dans la Bible. Et nous savons par l'interprétation que Jésus donnera de ce texte que c'est le Dieu de la résurrection. Quand il dit le Dieu d'Abraham, il veut dire que Abraham est vivant. Abraham est vivant. Dieu ne se vante pas d'être le Dieu d'un mort. Dieu est le Dieu des vivants. Donc Abraham est ressuscité. Jésus nous parle souvent d'Abraham, nous en parlons très peu dans les églises, mais Jésus en a souvent parlé. Donc Moïse rencontre ce Dieu qui a la même passion de la justice, mais beaucoup plus forte que lui, mais associé à la sainteté, associé à l'amour. Il est donc renvoyé par Dieu en Égypte, il y retourne. Il a dû surmonter la peur d'être tué s'il retourne en Égypte. Les disciples de Jésus ont souvent aussi dû surmonter leur peur en suivant Jésus. À un moment donné, Jésus s'était caché lui aussi, loin de Jérusalem. Et puis pour la résurrection de Lazare, il y retourne. Et Thomas dit, bon, on va y aller. Peut-être on va mourir, mais on va y aller. Ils ont peur. Ils auront encore beaucoup plus peur quand Jésus aura été tué. Ils sont calfeutrés dans leur chambre haute. Tout est barricadé. Mais Jésus est là, au milieu d'eux, ressuscité. Moïse avait peur. Jésus a dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et c'est cette peur qui était dans le ventre de Moïse. Mais maintenant qu'il a rencontré le Seigneur, le Dieu de la justice, le Dieu de la résurrection, il arrive à obéir à cet ordre. Il retourne en Égypte, les mains nues. Il n'avait pas d'armes. Pas de Kalachnikov ou de bazooka, il avait juste un bâton. Il retourne avec un bâton en Égypte. Comme un agneau au milieu des loups, Qu'est-ce que c'est l'Égypte à l'époque? C'est le premier grand système capitaliste. On nous enseigne dans la Bible que Pharaon avait profité de 7 années de sécheresse pour vendre au prix, à prix cher les denrées rares, le blé. Et les paysans avaient même dû vendre leurs terres au pharaon. Il avait tout centralisé. C'est le but du capitalisme. On élimine tout, il ne reste qu'une seule société et puis on voit ça. C'est exactement le système de l'époque de Pharaon. Moïse est envoyé au cœur du système capitaliste le plus inique de l'époque. Oui, Pharaon avait profité de la sagesse de Joseph qui avait prédit ces années de famine. Alors, nous avons donc là dans la Bible, dans la première page de la Bible, une espérance pour notre époque où tout est dominé par le capitalisme, associé à la mafia, dans bien d'endroits, à la corruption, y compris en France. Il y a maintenant même des pays riches qui achètent des terres entières, des régions entières dans les pays pauvres. En Madagascar, par exemple, c'est acheté par la Chine. Nous mettons des pays entiers en sous-coupe, sous pillage. Le Zaïre, le Congo, par exemple, aussi. Dans le défi Michel, on nous dit de prier cette année plus particulièrement pour qu'il y ait une transparence dans l'exploitation minière de certains pays. Les pays capitalistes se débrouillent pour que ce soit l'anarchie dans ces pays, qu'on puisse rien contrôler, que les diamants soient extraits et envoyés dans d'autres pays sans que ça profite au pays lui-même. Parce que c'est l'anarchie dans beaucoup de pays où il y a de grandes richesses. Voilà comment cela se passe. On peut prendre aussi l'exemple de l'Inde. Les paysans, de plus en plus, quand ils empruntent, ne peuvent pas rembourser, ils ne remboursent pas, et plus la dette augmente, et finalement, ils doivent vendre leurs terres. Mais l'histoire de Moïse nous enseigne à ne pas baisser les bras. Dieu a envoyé Moïse au cœur du système capitaliste de l'époque. Il l'a envoyé direct chez Pharaon. Imaginez ça, directement chez Pharaon. Voilà ce que nous raconte la Bible. Alors pourquoi les chrétiens seraient-ils comme ça les bras ballants devant le monde actuel? De toute façon, on ne peut rien faire. De toute façon, il y en a tellement des injustices, on ne peut rien faire. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui lit la Bible. Ça peut nous traverser l'esprit, bien sûr. Mais celui qui croit au Dieu de la Bible doit réagir autrement. On peut faire quelque chose. Et vous voyez que Moïse, il a fait quelque chose qu'il lui-même ne pensait jamais pouvoir faire. Il n'a même pas voulu y aller. Et Dieu dit, je serai avec toi. Je suis. C'est le même mot que par lequel il se présente dans le buisson ardent. Bon, je suis maintenant dans ce buisson, maintenant je suis avec toi. Quand tu vas chez Pharaon, je suis toujours le même avec toi. Et Jésus nous dit pareil. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, particulièrement, il dit « Je suis !»« Je suis !» Il dit, c'est connu des tiers noirs, puisque nous l'avons au temple de Thiers. Ce serait bien d'en mettre aussi un verset ici. Au temple de Thiers, il y a marqué devant vous toujours « Je suis !» Jésus dit « Je suis le chemin !» Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, ça veut dire qu'il est toujours avec celui qui croit en lui. Je suis avec toi. Et qu'est-ce que Moïse va demander au Pharaon? Est-ce que tu ne pourrais pas améliorer un petit peu les conditions de vie des esclaves, leur donner la télé dans chaque chambre, faire un jour de repos le dimanche pour qu'ils puissent aller au culte? Savons que ce genre de revendication a existé parmi les ouvriers à Thiers. Quand on visite le musée de la coutellerie, on nous dit qu'il n'y avait même pas de dimanche.
Il y a eu des grèves à répétition, des grèves sérieuses, pour avoir au moins un minimum, travailler dur. C'est devenu la devise même de Thiers, le travail vint tout. Labor omnia vincit. Non, Moïse n'a même pas demandé une amélioration des esclaves, de la condition de vie des esclaves hébreux. Il a donc tout demandé, tout simplement, à Pharaon, laisse-les partir. Ni plus ni moins, laisse-les partir. Et pas pour faire n'importe quoi, pas pour faire ailleurs la révolution et un pays fonder une nation qui pratiquerait le même système capitaliste. Non, laisse-les partir pour qu'ils aillent m'adorer là où Moïse avait vu le Dieu dans le buisson ardent, qu'ils aillent me faire un culte au mont Horeb, au mont Sinaï. Laisse-les partir pour qu'ils aillent m'adorer. Le but de la libération, c'est que nous adorions Dieu. Seule une vraie adoration a pu donner à Moïse la force d'affronter Pharaon, de vaincre sa propre peur. S'il n'y a pas d'adoration dans nos vies, nous aurons toujours la trouille au ventre, quoi que Dieu nous demande, parce que nous n'aurons pas cru la parole que Jésus nous a dit « Je suis avec vous ». Moïse a demandé à Pharaon la libération pure et simple des Hébreux, parce qu'il a adoré. Il a adoré ce Dieu dans le buisson ardent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors il faut cesser d'adorer notre propre moi, déjà. Ça c'est la chose la plus impossible qui soit, et que Dieu nous demande, Jésus nous la demande. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Renoncer pas seulement aux richesses, mais à lui-même. À son propre âme, il ne peut pas me suivre. Celui qui veut sauver sa vie la perd. Celui qui la perd à cause de moi la sauve. Il y a des paroles comme ça de Jésus qui nous apprennent à vraiment l'adorer comme le seul qui est la garantie de notre vie. Il est lui seul la garantie de notre âme. Si nous n'avons pas cette certitude que Jésus est avec nous, nous aurons toujours à nouveau peur. Écoutons maintenant un texte, le chapitre 31 de Job. C'est la fin des paroles de Job. Nous voyons dans ce long chapitre qui va nous être lu que le souci de la justice envers les pauvres est une préoccupation essentielle de l'homme juste selon la Bible.
Job 31.
C'est trop mal. On entend mieux là.
J'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. Sinon, qu'aurais-je pu m'attendre à recevoir depuis le ciel du Dieu très grand qui est là-haut? Le malheur est pour les criminels, dites-vous, et les graves ennuis pour les gens malfaisants. Or, Dieu ne voit-il pas comment je me conduis? Il va jusqu'à compter tous les pas que je fais. Eh bien, ai-je vécu guidé par le mensonge? Ai-je pressé le pas pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse dans une balance juste, alors il sera... « Je suis irréprochable. » C'est Job qui parle. « Si mes pas ont quitté le chemin qu'ils traçaient, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, si mes mains sont salies par une action mauvaise, qu'un autre profite alors de ce que je sème et que mes plantations soient arrachées de la terre. Si mon cœur a cédé à l'attrait d'une femme, et si je l'ai guetté à la porte voisine, Alors que ma propre femme travaille pour un autre et que tout le monde puisse disposer d'elle, car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par les juges. Ma faute aurait été une sorte de feu qui m'aurait consumé jusqu'à m'anéantir et qui aurait détruit tout ce que j'ai acquis. Lorsque mon serviteur ou lorsque ma servante avait un sujet de plainte à me présenter, ai-je tenu pour rien le droit qui est le leur? Sinon, que ferai-je quand Dieu interviendra et que répondrai-je quand il enquêtera? Car c'est le même Dieu qui nous a tous formés, eux comme moi, dans le ventre de notre mère. Ai-je jamais dit non aux demandes des faibles et laissé les yeux de la veuve attendre en vain? Ai-je mangé tout seul un morceau de mon pain sans laisser l'orphelin en avoir une part? Depuis ma jeunesse, j'ai été au contraire, comme le père auprès duquel il grandissait, et j'ai toujours été un guide pour la veuve. Ai-je vu un pauvre privé de vêtements, un malheureux qui n'avait rien pour se couvrir, sans qu'il me remercie d'avoir mis sur leur dos un tissu chaud de la laine de mes moutons? Et si j'ai menacé l'orphelin au tribunal en sachant que j'aurai l'appui de tous les juges, alors que mon épaule s'arrache de mon dos et que mon bras se casse à la hauteur du coude? Car je redoute trop la punition de Dieu, je ne pourrais tenir devant Sa Majesté.
Ce chapitre est un peu long, donc je vais couper en deux, et c'est Catherine, la maman de Charles, qui va nous lire la deuxième partie.
Est-ce que j'ai placé ma confiance dans l'or, ou lui ai-je dit « tu es ma sécurité » ? Je n'ai pas mis ma joie dans ma grande fortune, dans les nombreux objets que j'ai pu acquérir. Quand j'ai vu le soleil dans toute sa splendeur et la lune avancer majestueusement, mon cœur a-t-il été secrètement séduit ? Les ai-je pris pour Dieu et les ai-je adorés ? En agissant ainsi, j'aurais mérité d'être puni par mon juge, car j'aurais été traître envers le Dieu d'en haut. Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans les ennuis, frappé par le malheur? Je n'osais même pas me permettre la faute de le maudire en demandant à Dieu sa mort. Qui n'ai-je pas nourri de viande à satiété? Tous ceux que je logeais peuvent en témoigner. L'étranger ne passait jamais la nuit dehors, puisque ma porte était ouverte aux voyageurs. Comme beaucoup de gens, ai-je caché mes fautes, dissimulé mes torts? Je n'ai pas peur de me présenter en public, d'avoir à affronter le mépris collectif, au point de ne rien dire et de rester chez moi. Ah, combien j'aimerais être enfin écoutée. Je peux signer ce que j'ai dit. C'est maintenant au Dieu très grand de me répondre. Quant à l'acte d'accusation qu'a rédigé mon adversaire, je le porte glorieusement sur mes épaules, j'en fais une couronne à mettre sur ma tête. Je rendrai compte à Dieu de chacun de mes pas, je me présenterai à lui, fier comme un prince. Ai-je poussé les champs à se plaindre de moi? Et ai-je fait pleurer les sillons de la terre en profitant gratuitement de leur récolte, sans respecter les droits de leurs propriétaires? Si c'est le cas, eh bien, que la terre produise des buissons épineux et des herbes puantes au lieu d'orge et de blé. Fin des paroles de Job.
Je termine cette prédication en revenant au verset 105 du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds.
Pas ici, pas au-dessus.
À mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que la parole, nous devons marcher pas à pas avec elle. Faire chaque pas selon les paroles, une parole de Dieu. Elle est là pour nous aider à avancer, à agir pas à pas. La première fois que je suis entré à l'Assemblée de Dieu à Thiers pour une réunion de prière, il y a eu une parole de connaissance pour moi. Tu cherches à faire des expériences avec le Saint-Esprit. Tu dois simplement marcher par l'Esprit. J'ai appris quelque chose d'important ce jour-là. Faire des expériences, c'est bien. Moïse a fait une forte expérience avec Dieu. Mais après, il a marché. Il a marché jour après jour, heure après heure, en se laissant guider par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Chaque jour, un nouveau problème surgissait. Et chaque jour, il fallait trouver une nouvelle solution, une solution chaque fois inédite que le Saint-Esprit donnait. Marcher avec Dieu, c'est cela que nous sommes appelés à faire, la mettre en pratique chaque jour. Parfois, il faut même garder une parole pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle soit vraiment mise en pratique. Job, dont nous avons entendu le témoignage, il a mis toute sa vie en pratique la parole de Dieu. Et puis pendant très longtemps, il a été malade, sans faire aucune expérience avec Dieu. Il a continué à marcher dans l'intégrité, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et il y a eu une expérience. Mais au bout de combien de temps? Mais tout ce temps, il a marché avec Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il fasse une telle expérience qu'il dit « J'ai vu Dieu ». Et maintenant, j'arrête de parler. La parole de Dieu est là pour éclairer nos pas. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle n'est pas un projecteur qui nous éblouit comme dans une salle de spectacle. Amen.